Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rencontre aujourd'hui avec deux bâtisseurs, deux prêtres qui donnent à toi à des milliers de personnes. L'un est en France, dans le logement social et l'économie solidaire. C'est le père Bernard Devers, président fondateur d'Habitat et Humanisme. L'autre, le père Pedro, vit à Madagascar où son association, Akamassou, a bâti à quelques kilomètres de la capitale, une petite ville qui accueille les sans-logis d'un pays où la misère ne cesse de croître depuis l'indépendance et qui doit élire dans quelques jours son nouveau président. Nous ouvrons avec le père Bernard Devers et la crise sociale des Gilets jaunes en France. Un mouvement de révolte parti de la hausse du diesel et qui a révélé, au-delà de ses débordements, les grandes difficultés économiques d'une France oubliée, la France des pavillons, cette France rurale et périurbaine, victime collatérale de la métropolisation, c'est-à-dire cet aménagement du territoire qui a misé sur le développement des grandes villes, entraînant dans son sillage la dévitalisation des petites et villes moyennes et le prix exorbitant des loyers dans les métropoles. En arrière-fond du mouvement des Gilets jaunes, c'est donc la question du logement en France qui est posée. Le père Bernard Devers est un expert, un pionnier dans ce domaine. Cet ancien promoteur immobilier devenu prêtre à l'âge de 40 ans, créé en 1985 à Lyon, Habitat et Humanisme, pour lutter contre le mal-logement, la ségrégation sociale et permettre aussi la réinsertion. Rénover des immeubles en centre-ville grâce au concours d'investisseurs privés, mais créer aussi des maisons intergénérationnelles, un réseau d'EHPAD pour personnes âgées à faible revenu et des maisons de soins palliatifs avec un réseau de 1500 salariés et des centaines de bénévoles. Habitat Humanisme, dans l'esprit de son fondateur, animé par l'esprit de l'Évangile, s'est réconcilié l'économique et le social. Bernard Devers, qui a été par ailleurs pendant 13 ans aumônier du centre anticancéreux de Léon Bérard à Lyon. Alors, fort de sa longue expérience, nous lui avons demandé l'analyse qu'il faisait du mouvement des Gilets jaunes.
Alors, cette crise qui est manifestée par les Gilets jaunes est une crise à partir de laquelle, finalement, il y a cette prise de conscience que trop d'hommes et de femmes ne sont pas respectés, qu'on ne fait pas attention à leur dignité. Alors certes, c'est parti à partir de l'automobile, hein, mais en fait, avec une occupation des ronds-points et puis des péages, et puis très vite, finalement, parce qu'il y a eu une adhésion, même, en fait, de la population, et malgré, en fait, ces violences, ces désordres, etc., au fond, la population a dit, mais on est globalement favorable à plus de 70%. Donc ça souligne combien, en fait, ils sont soutenus. Au fond, il y a aujourd'hui une sorte de prise de conscience d'une rupture entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont rien. Et donc c'est toute la question, et ça touche le problème du logement, ça touche la question, en fait, du reste à vivre. Qu'est-ce qui reste pour vivre ? C'est une invitation, en fait, à essayer aujourd'hui de voir, finalement, la rupture sociale qui s'est opérée entre les élites, qui se disent, mais en fait, bon, on a le savoir, on a des compétences, et nous voyons ce qu'il faut faire pour cette société, il faut la faire changer. Et de l'autre, ceux qui sont, en fait, en situation tout à fait difficile, dire, changer sûrement, mais changer, en fait, vous voulez faire changer quoi? Et qu'est-ce que ça va changer pour nous? Précisément, en fait, ce mouvement, il aura une pérennité. Il aura une pérennité parce que la question du changement, elle est au cœur même, en fait, aujourd'hui, de ce qui a suscité, c'est pas simplement un problème de l'automobile, c'est en fait, aujourd'hui, on va rester sur quelque chose de la mobilité, il faut faire bouger les choses, et se bouger.
C'est-à-dire, vous estimez que les réformes entamées par le président Macron, voulues par le président Macron, sont des réformes nécessaires?
Oui, il y a un certain nombre de réformes qui sont tout à fait nécessaires. Je dis qu'en fait, aussi, c'est la question de l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, on est bien obligé de passer, en fait, dans des cadres budgétaires, à trop se moquer de ces cadres-là, on n'a plus non plus de crédibilité par rapport, en fait, à l'Europe. Et aujourd'hui, en fait, il y a quand même des élections importantes avec toute cette question du populisme. Si on veut aujourd'hui faire en sorte que l'Europe on peut réinvestir l'Europe, parce que je crois qu'il faut réinvestir l'Europe, il faut qu'il y ait ce désir de l'Europe. Et en fait, on ne peut pas tout demander à l'Europe, il faut aussi lui apporter quelque chose à cette Europe. Et donc, en fait, les États ne peuvent pas simplement essayer de profiter de l'Europe, parce qu'à vouloir profiter des choses, en fait, sans se dire, finalement, qu'est-ce qu'on va apporter à cette Europe. Et je crois que dans cette perspective-là, le président Macron, il n'a pas tort de vouloir faire ces réformes. Dans le même temps, il n'a pas pris en compte, en tout cas, il n'a pris en compte que trop tardivement, des approches à partir desquelles il faut veiller à plus d'égalité, parce que, en fait, ceux qui sont en situation, en très très grande difficulté, l'Europe, oui, mais c'est l'Europe des technocrates, et donc ce n'est pas notre Europe à nous.
Alors vous, père Bernard Devers, expert en urbanisme, expert en aménagement du territoire aussi, d'une certaine façon, à travers Habitat et Humanisme, cette France qui doit prendre sa voiture pour aller travailler et gagner de petits salaires, vous la comprenez? Vous la connaissez?
Non, je la connais peu, parce qu'en fait, on travaille aujourd'hui dans les métropoles. Et c'est là où, en fait, se pose le problème absolument majeur, en fait, du mal logement. Une ville comme Paris, là où il y a cette interview, le nombre de familles, nous le savons bien, il faut attendre 8 ans, 10 ans parfois pour avoir un logement social. Comment un foyer, comment un couple, en fait, peut penser son avenir en attendant 10 ans? Dans le même temps, on dit, ah, mais les métropoles, aujourd'hui, en fait, c'est le lieu où il y a de l'emploi. Et s'il y avait autant d'emplois que cela, en fait, aujourd'hui, on est les champions en Europe sur la question du chômage. Lorsqu'il y a 3 millions de chômeurs, on ne peut pas dire alors que les métropoles, ça soit la réponse. Et donc, il me semble qu'une des réponses, une des clés aujourd'hui, et qui est aussi très liée à la question de la crise, en fait, que relèvent, en fait, les Gilets jaunes, c'est en fait comment, et vous avez raison de prendre ce terme, l'attention à l'aménagement du territoire. Et cet aménagement est... D'abord, il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire. D'ailleurs, vous voyez, on ne le retient plus. Le mot, il n'est même pas retenu. On n'en parle même plus de cet aménagement du territoire. Et alors que c'est en fait... Ce sont des forces économiques, des forces culturelles aussi. D'ailleurs, il n'y a pas que l'économie aussi, sur l'approche culturelle, etc. Où en fait, la métropole devient le lieu, finalement, où tout est proposé. Mais en fait, où il y a peu de choses aussi qui sont en fait possibles pour ceux qui sont en grande difficulté. Et sans aménagement du territoire, ça donne quoi? Grande ville, comment tu te construis? Ces mégapoles, comment elles se construisent? Elles se construisent, alors là c'est vraiment l'enjeu de la résistance du mouvement Habitat Humanisme. On voit qu'il y a des quartiers riches, il y a des quartiers des classes moyennes, il y a des quartiers en fait plus populaires, et il y a même ce qu'on appelle des quartiers de non-droit, c'est-à-dire en fait des hommes et des femmes qui se disent « mais au fond cette société elle sera jamais la nôtre ». Et donc, finalement, on organise nos propres quartiers, au point qu'aujourd'hui, même sur le plan de la sécurité, ces quartiers sont en grande difficulté, sont en situation de souffrance. Donc, c'est quand même absolument dramatique de voir que les villes, les petites villes se dévitalisent. Hein, donc, en fait, comment les revitaliser? Alors, je crois que ça passe, en fait, au moins par deux approches. La première, c'est comment on peut avoir un État moins jacobin? Et comment se dire, en fait, on va faire aussi en sorte, en fait, de revitaliser à travers aussi, de redonner de l'emploi, etc., en fait, dans ces villes, au moins déjà ces villes moyennes, où, en fait, il y a des milliers de logements qui sont vacants. C'est par milliers que les logements sont vacants. Et dans le même temps, on se retrouve ici où il n'y a pas de logement, enfin, dans ces métropoles, où il n'y a pas de logement pour les populations fragilisées. Donc je pense qu'il doit y avoir en fait une prise en compte en fait de cette aberration, c'est du non-sens. Et quand en fait on est dans le non-sens, en fait, eh bien ça va sans dessus, sans dessous, quoi. C'est ce qui arrive en fait aujourd'hui en fait au sein de nos métropoles. Moi j'ai la conviction qu'en fait sur la question de l'emploi, l'emploi va profondément changer dans les années qui vont venir. Alors c'est vrai que la question du numérique, on va me dire, ah oui, mais les populations en fait dans ces villes moyennes, elles sont très éloignées de la question du numérique. Peut-être qu'en fait il y a une jeunesse qui, elle, qui n'est pas éloignée quand même de ce numérique. Et donc de tenter de faire en sorte, donc sur cet effort de réindustrialisation en fait de notre pays, de donner une priorité, et ça passe encore par des problèmes d'aménagement du territoire, pour offrir de l'emploi. Moi, quand je viens donc toutes les semaines à Paris, je prends le métro, quand je vois ces lignes, en fait, où en fait la tristesse des gens, en fait, je me dis, et alors qu'en fait ailleurs, en fait, à 100 km par exemple de Paris, en fait, on va à Sens, ça devient aussi quelque chose qui est ces villes qui sont un peu dévitalisées. En fait, il y a vraiment un effort à faire pour dire Bon, c'est pas tout, ça, tout ne va pas se passer forcément dans la capitale. Ce qui est justement capital, c'est aujourd'hui de retrouver une plus grande harmonie. Et cette harmonie, elle ne se fait pas dans la concentration, en fait, de territoire et l'appauvrissement des autres. Il y a, au fond, vous savez, je crois que c'est vrai pour l'homme. Je crois qu'il faut passer, en fait, de ce moi préfabriqué à devenir, en fait, une personne. Et donc, c'est-à-dire, en fait, finalement, devenir un vivant. Et quand on est un vivant, eh bien, on vibre. Qu'est-ce qui nous fait vibrer dans cette société ? Est-ce que nous allons rester, en fait, enfermés dans des décrets ou même non, de non-décrets, c'est-à-dire, en fait, finalement, d'une société qui se construit, en fait, simplement sur l'idée de la puissance ? Et cette puissance, elle est aussi mortifère. Rappelons-nous, le dur est compagnon de la mort, le fragile est compagnon de la vie. Eh bien, je crois qu'il nous faut aussi, au sein de l'aménagement du territoire, il nous faut aussi, au sein de l'acte de construire, prendre en compte la question de la fragilité. C'est l'avenir pour nos sociétés.
Là, c'est le prêtre qui parle et le fondateur d'Habitat Humanisme.
C'est à la fois le prêtre qui parle, mais c'est aussi, en fait, simplement l'homme qui voit, en fait, aussi... Tant et tant de personnes qui sont dans des situations, en fait, qui vivent de telles duretés, de tels enfermements, qu'ils se disent, il n'y a pas d'espoir, cette société, elle n'est pas la nôtre, elle ne sera pas la nôtre. Et au fond, c'est bien le cri aussi, en fait, porté par les Gilets jaunes. Est-ce qu'on existe ? Mais si on existe, est-ce que vous voulez nous aider à exister ? C'est l'interrogation qui est posée.
Exister en dehors des aides sociales, exister par le travail et le logement.
Oui, pas simplement aider précisément, exister à partir simplement des aides. D'ailleurs, c'est parce qu'on n'a pas entendu cela. Je trouve que c'est très très intéressant. Vous avez raison de le relever. Les gens n'ont pas dit, mais aidez-nous, on veut... On a même peu parlé sur la question, en fait, de l'APL. On en a très peu parlé, en fait. C'est pas ça. Ça a été pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, mais reconnaissez-nous comme des êtres à part entière dans la société. Nous avons notre place. Et pour qu'ils trouvent leur place, il faut aussi sans doute que les élites vivent aussi une forme un peu de déplacement pour être plus attentifs à ceux que finalement, je ne dis pas qu'ils ont méprisé, je crois que le sujet, bien sûr qu'à ce ressenti du mépris, ça a été fortement souligné. Mais en fait, on va trop vite, et en allant trop vite, d'autres se disent, mais finalement, nous sommes que les oubliés d'une société.
On a quand même le sentiment que le logement est au cœur de la problématique économique aujourd'hui. Il y a bien sûr les industries qui sont parties vers la Chine, mais on a quand même le sentiment que la part consacrée au logement pour les ménages bloque aussi l'économie aujourd'hui.
Mais alors, comme il n'y a pas de politique de l'aménagement du territoire, il n'y a pas non plus, en fait, de politique, en fait, aujourd'hui du logement. D'ailleurs, en fait, il n'y a même plus du ministère du logement. Et on voit que les métropoles, le logement coûte extrêmement cher, naturellement, puisqu'en fait, c'est là que la demande est la plus forte. Et avec des demandes, en fait, de gens qui ont des moyens financiers. Une ville comme Lyon, par exemple, en fait, a eu un éclatement. Alors que ça a été une ville qui était raisonnable sur la question du foncier, aujourd'hui la métropole, aujourd'hui elle devient extrêmement, extrêmement chère. Donc, je veux dire, ce coût du logement fait que les gens n'ont plus les moyens, en fait, de pouvoir, enfin les classes moyennes et les populations fragilisées, encore plus naturellement, se retrouvent dans une difficulté par rapport, en fait, à la part du logement dans leur budget. C'est excessif et donc il faut travailler à un rééquilibrage du coût du logement. Mais ça va se faire qu'à partir, en fait, d'une politique foncière. Et cette politique foncière, elle est directement liée à la question de l'aménagement du territoire.
Alors, Habitat Humanisme permet à des milliers de familles en France d'habiter les centres-villes, d'habiter à l'intérieur de la ville, de ne pas justement être exclu et d'être obligé d'aller vivre à des kilomètres et des kilomètres de la ville. Est-ce que c'est, comment dirais-je, un projet qui peut s'étendre ? Est-ce que cette économie sociale, selon vous, c'est le modèle de demain ?
Je partirais, en fait, du plan pauvreté du président Emmanuel Macron. Je trouve que ce plan sur la pauvreté était un plan intéressant. En disant, la question, c'est pas qu'il y ait, en fait, d'améliorer la situation des pauvres, c'est en fait qu'il n'y ait plus de pauvres. Comme c'est juste, en fait, et comme c'est juste. Et alors, il se dit, en fait, au fond, c'est Mozart qu'on assassine. Hein. Il dit, il y a beaucoup de Mozart, en fait. Mais en fait, on leur donne pas la possibilité de s'exprimer. Et surtout, on pense que parce qu'ils sont pauvres, ils ne pourront pas être des Mozart. Je trouve ça tout à fait intéressant. Seulement, pour précisément que les Mozart se réveillent, je crois qu'il y a d'abord une première condition, c'est que l'enfant ne vivent pas dans des quartiers en fait marqués par la situation en fait de la très grande, de la grande pauvreté. Parce que ça veut dire un présent difficile, mais qui compromet l'avenir de l'enfant. Quelle injustice, quelle iniquité.
Bernard Dever, Habitat et Humanisme ne promeut pas seulement la mixité sociale, mais se montre également pionnier dans le logement intergénérationnel avec des personnes âgées, des familles, des étudiants vivant sous le même toit.
Il y a un éclatement du vieillissement. La réponse, c'est pas naturellement en fait les EHPAD. Hein, je veux dire, en fait, d'abord, ça coûte très cher, trop cher. C'est plus à la portée en fait des bourses. Aujourd'hui, la retraite moyenne, c'est 1100 euros en fait, la retraite moyenne, hein, donc, en prenant en compte les retraites de reversion, 1100 euros mensuels, et le moindre EHPAD, c'est 1600 euros, 1700 euros. Et encore, je veux dire, en fait, dans des structures qui sont des structures associatives. Hein. Donc on voit bien qu'en fait, là aussi, il y a un problème de rupture. Mais quand on va faire des maisons intergénérationnelles, des bâtiments intergénérationnels, où on va dire, demander à des jeunes, en fait, de leur dire, voilà, est-ce que vous voulez pas aussi prendre soin un peu de vos aînés? Mais ces projets, on leur dit, voilà, ça ne peut fonctionner que parce que, enfin, finalement, vous accepterez de vous investir. Mais quand on dit à un jeune, en fait, évidemment, on a besoin de toi, donc lorsqu'il y a un appel, finalement, eh bien, on n'est pas déçu, naturellement. Et ce jeune découvre, en fait, à 20 ans, qu'il soit étudiant, qu'il soit jeune actif, ou qu'il soit même simplement en recherche, en fait, d'un travail, d'une formation, que finalement, il est attendu, il est espéré dans la société. Au fond, le drame, et ça a été souligné, on va revenir sur la question, en fait, des gilets jaunes, le drame, en fait, de trop de gens, c'est de dire, finalement, on n'est qu'une charge, on est considéré comme étant inutile. Je crois que l'enjeu, c'est précisément de faire reconnaître pour pouvoir naître.
Comment se passe la vie, père Bernard Dever, dans une maison intergénérationnelle conçue par Habitat et Humanisme?
C'est une vie qui va témoigner précisément d'un passage de relations. Je prends un exemple très concret, je prends par exemple la maison qu'on a réalisée sur les anciennes prisons de Lyon. Et on nous a demandé, en fait, et l'État nous a demandé en disant, est-ce qu'Habitat Humanisme n'interviendrait pas sur ce site? On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, sur ce site? Il y aura un campus. Puis finalement, grâce, en fait, à l'hôpital qui se trouve en face, les médecins nous ont dit, mais nous, on a un vrai problème, on a 40 000 personnes chaque année qui passent dans des pôles d'urgence, on va les soigner, puis après, on va les remettre dans la rue, pour certains, ceux qui sont des LDF. Pour d'autres, en fait, il faudrait faire une hospitalisation à domicile, mais pour qu'il y ait une hospitalisation à domicile, encore faut-il que la personne ne soit pas seule si, en fait, la pathologie est lourde. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Et alors, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le faire ensemble. Et donc, en fait, avec les médecins, on nous a dit, oh, mais c'est l'utopie. Alors, quelle utopie? C'était de dire, on va demander, en fait, aux étudiants, en fait, d'assurer le prendre soin, pas les soins, mais le prendre soin de ces personnes. Et heureusement qu'il y a des utopies. Et cette utopie aujourd'hui, finalement, vous savez, Victor Hugo qui disait, l'utopie, c'est la vérité de demain. Cette vérité-là, c'est d'abord une vérité à partir de laquelle, sur le terrain, concrètement, on voit ces étudiants qui vont prendre soin, voir la personne qui sort de l'hôpital, et qui est dans une situation donc forcément un peu difficile, et de l'aider. Alors, ça va l'aider, par exemple, on a des étudiants qui ont aidé des personnes à pouvoir les initier à l'informatique, etc., à l'Internet, etc. C'est aussi pour prendre un repas ensemble, etc. Puis il y a des familles qui sont là, et des familles aussi qui sont là pour aider, soutenir, pour aussi être dans une situation à partir de laquelle il y a tout un travail d'écoute. Donc ça devient en fait un véritable lieu d'humanité.
Pour vous, c'est l'avenir, l'intergénérationnel, ces maisons?
En tout cas, moi je crois que l'intergénérationnel, c'est une des réponses à donner, parce qu'aujourd'hui, elle permet précisément en fait de travailler à cette diversité, à cette mixité, mixité des services, c'est de dire aussi à la personne âgée, mais non, vous vous rendez compte ce que vous avez vécu, en fait, 85 ans, il y a des gens qui sont plus, etc. Tout un siècle de transformation incroyable d'une société, vous avez quelque chose à transmettre, vous vous êtes adapté dans cette société, vous avez vécu, en fait, aussi des conflits considérables, etc. Vous vous êtes levé, vous vous êtes relevé, vous avez quelque chose à dire. Et naturellement, la personne, quand elle entend cela, elle se dit, mais finalement, mais oui, je suis une vivante. Et ces jeunes, en fait, aussi, qui découvrent, effectivement, aussi des complicités avec la personne âgée, il se dit aussi beaucoup de choses qu'on dirait pas forcément à des parents, hein. Et que là, finalement, il y a des rencontres qui sont des rencontres qui donne à notre société un peu plus d'humanité.
C'était le père Bernard Dever, président fondateur d'Habitat et Humanisme.
Religion du monde, Geneviève Delrue.
d'entre vous le connaissent et l'entendent notamment quand il est de passage en France pour récolter des fonds afin de poursuivre l'œuvre de sa vie. Le père Pedro, surnommé l'abbé Pierre de Madagascar, est avec nous dans ce studio. Bonjour père Pedro.
Bonjour.
Je rappelle donc que vous êtes le fondateur d'Akamasu, cette association qui a permis à des milliers et des milliers de personnes depuis plusieurs décennies d'être logées, d'être éduquées, d'être nourries, d'être soignées. Je rappelle que vous êtes prêtre lazariste, vous êtes né en Argentine, de parents slovènes, vous avez eu 70 ans cette année.
Exactement.
On peut le dire.
Oui.
Vous êtes arrivé à Madagascar, vous aviez une vingtaine d'années.
Oui, 22.
22 ans. Et puis, c'est sur une décharge qu'est né, un petit peu comme sœur Emmanuel, avec une poignée de malgaches à Kamasu.
Oui.
Cette association qui donne un toit aujourd'hui à 25 000 personnes.
25 000 personnes, mais passé un 29 ans que nous existons, ben c'est presque un demi-million de personnes qui ont passé. Et qui passent tous les ans 30 000 personnes pour une aide ponctuelle. C'est surtout souvent l'aliment, c'est les médicaments, c'est les personnes malades, c'est les personnes qui sont dans la rue. Eh bien, passent pour une aide ponctuelle.
Donc 500 000 personnes en près de 30 ans.
Oui.
Ce sont des villages à Kamasu.
Ce sont des villages, des quartiers que nous avons créés, mais quand on met tous les villages ensemble, ça fait une ville de 25 000 personnes.
Une ville de 25 000 personnes.
Avec tous les services que vous trouvez dans une ville, ben nous l'avons créé avec les plus pauvres, avec ceux qui étaient autrefois exclus de la société, qu'aujourd'hui, ils sont fiers de montrer à leurs compatriotes, voilà ce que nous avons fait, nous, avec nos propres mains, avec notre travail, avec nos enfants.
Au départ, c'était des maisons en torchis,
c'était souvent en bois, en plastique, en carton. Et voilà, des taudis.
Une vie de village, on va dire, qui s'organise autour de la fraternité, de la solidarité.
Exactement.
Même si tous les jours, c'est pas rose.
Ce sont les valeurs de Madagascar. Le peuple malagasy est un peuple accueillant, plein de joie, de vivre, solidaire. Mais que l'extrême pauvreté les a ensevelis dans les sous-humains, dans la misère extrême. Et là, ils ont perdu quelques-uns leur propre identité. Ils ont perdu leur culture, la relation à ses propres tradition et leur culture, parce que l'extrême pauvreté, c'est une prison qui tue la personne humaine.
Alors, à quelques jours du deuxième tour des élections présidentielles, père Pedro, on va parler précisément de cette pauvreté. Mais d'abord, je commence avec ce nouveau livre sur Akamasu qui s'intitule « La cité d'espérance » du père Pedro, écrit par Pierre Lunel, votre biographe, on peut le dire, qui est avec nous aussi dans ce studio. Bonjour Pierre Lunel.
Bonjour.
Livre illustré par un grand photographe malgache.
Oui.
Ridjasolo, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est un très très bon photographe. Oui.
Ouais. Avec des photos absolument effectivement magnifiques. Livre publié aux éditions du Rocher qui met en lumière les pépites, j'allais dire, d'Akamasu, ces hommes, ces femmes, d'ailleurs on peut bien le dire, surtout ces femmes, qui sont donc les bras, les mains, les têtes, les cœurs d'Akamasu.
Mais exactement, ce sont eux qui ont fait Akamasu, ceux qui ont construit Akamasu, parce qu'ils ont cru qu'ils peuvent se relever de l'extrême pauvreté, l'extrême misère. Quand on les a fait confiance, quand on les a entendus, quand on les a reçus, et on est resté avec eux au milieu d'eux, et qu'on les a fait confiance, ils ont répondu oui. Ils se sont mis debout par le travail, par l'école, par la discipline.
Alors, un prénom, un visage, un parcours de vie, on peut dire que c'est la force de ce dernier livre sur Akamasu, parce qu'avec ses portraits, ses histoires de vie, s'incarne effectivement une action, vous venez de le dire, et puis on prend mieux conscience aussi ce qu'est la grande misère, Pierre Lunel, avec ses portraits, ces hommes et ces femmes que vous avez rencontrés. On les détaillera tout à l'heure.
Ben oui, il fallait... vous savez, moi j'ai toujours été fatigué d'entendre à l'époque de l'abbé Pierre le surnommer « la voix des sans-voix ». Pourquoi les sans-voix? Enfin, je veux dire, c'est les hommes et les femmes et les enfants comme nous. Ils ont une voix, ils ont une histoire, ils ont une vie, ils ont leur douleur, ils ont leur succès. Alors, il faut leur donner la parole. Je suis content que Pedro ait dit oui. Je lui ai posé la question d'abord, la permission. Est-ce que je peux aller voir ces gens-là? Il m'a dit, ça peut pas être facile. Voilà. Bon, mais tant pis, on y est allé quand même.
Vous aimez aller à Kamasu?
J'adore aller à Kamasu.
Vous êtes fasciné par Kamasu?
Ben, je suis fasciné parce que pour moi, il faudrait qu'il y ait je ne sais combien d'Akamatsu dans le monde. C'est c'est une exemplarité très forte qui, pour moi, soutient la Terre. Dans ces moments terribles qu'on traverse dans ce 21e siècle, ce sont des oasis d'espérance, comme il dit, des oasis d'espérance. Oui. Et imaginons que le monde soit rempli d'oasis d'espérance. Allez, on tient le coup pour 1000 ans encore.
Voilà, tout à fait d'accord.
Père Pedro, la misère à Madagascar. Madagascar est le 5e pays le plus pauvre de la planète. Alors, le 19 décembre prochain, dans 3 jours, c'est le 2e tour des élections présidentielles. 2 candidats en lice. L'ancien président de la Haute Autorité de la Transition, de 2009 à 2014, Angie Rajoel, et puis l'ancien président de la République, Marc Ravalomanan. Sachant donc que c'est Angie Rajoel qui a emporté le plus de voix au premier tour, avec 39,23% des voix contre 35% des voix pour l'autre candidat en lice. Alors, une question. Les deux candidats aujourd'hui parlent effectivement de construire des routes, d'éducation, enfin de tout ce qui manque à Madagascar dans ce pays très riche. Comment expliquez-vous que ces deux personnages qui ont été au pouvoir, qu'avec ces deux personnages, rien n'est avancé depuis des années?
Oui, tout d'abord, il faut dire que la pauvreté à Madagascar était créée par ses propres politiciens. Depuis l'indépendance, c'est bien, c'est eux, c'est les dirigeants qui étaient là et qui se sont pas aperçus que leur peuple, chaque année, naissait des milliers, voire 200 000 nouveaux jeunes qui arrivent au monde et qui arrivent au marché du travail et qui n'ont rien fait. Il y a des zones extraordinaires, très immenses, qui sont enclavées. Il n'y a ni route, ni école, ni hôpitaux, ni rien.
L'électricité,
on les
par
a
exemple.
Oubliés, pas d'électricité non oui. plus. On les a oubliés. On ne peut pas accepter ce grand pays qui est Madagascar, ce grand peuple malagasse, qui est riche en tout, riche en humanité, riche en tant de charisme qu'ils ont. Ils chantent, c'est un peuple qui chante. Un peuple qui chante, c'est un peuple qui a l'espoir. Eh bien, pourquoi on le laisse? Pourquoi ils l'ont laissé, ses propres dirigeants, dans cette extrême misère? Aujourd'hui, quand nous avons les élections, aujourd'hui le peuple, il est confronté à un choix. Il faut qu'il choisisse. Le peuple, il est souverain. Et c'est lui que le peuple va choisir. Eh bien, on l'acceptera. Parce que le peuple, ben, c'est celui qui décide qui veut qu'on le gouverne. Mais en sachant que tous les deux, s'il arrive à être élu, il faut qu'il fasse quelque chose, sinon ça va être pire, encore pire, et déjà la situation est insoutenable.
C'est pire qu'il y a 20 ans.
Ben bien sûr.
Depuis l'indépendance, le pays plonge.
Le pays plonge, ça, c'est une chute libre.
Alors, ça vient de quoi? C'est la corruption?
La corruption et toujours la corruption, et l'égoïsme. Les gens qui sont responsables, ils ne se rendent compte pas que sont responsables pour servir leur peuple. Souvent, ceux qui arrivent au pouvoir, c'est sœurs de leur peuple. On ne les serve pas. Servir son peuple, quelle mission noble d'un humain de pouvoir servir son propre peuple, ses enfants, ses jeunes. Et pourtant là-bas, ceux qui ont passé au pouvoir se sont servis, ont volé les richesses de Madagascar. Ils ont invité les grandes compagnies internationales pour piller ce pays. Et les pauvres peuples ne reçoivent rien de tous ces investissements. Ils ne reçoivent rien. On les laisse dans l'extrême pauvreté. C'est inadmissible. Le peuple malgache se révolte tout le temps.
La corruption, c'est, à votre avis, beaucoup plus fort que, par exemple, les cyclones ou les catastrophes naturelles.
Bien sûr,
beaucoup plus.
Les catastrophes naturelles aussi, ça nous appauvrisse. Mais parce que ça, c'est une fois par an. Mais la corruption, c'est tous les jours. C'est tous les jours et c'est partout. Et on est entré dans un cercle vicieux. C'est en haut, c'est en bas, c'est partout. C'est pour ça que les évêques de Madagascar, qui tous les ans essayent de faire réfléchir leur peuple, leurs jeunes, réfléchissez, soyez patriotes, aimez votre pays. Et on doit lutter contre l'argent roi. Et il faut lutter contre le mensonge. Les évêques, tous les ans, réveillent leur peuple, réveillent leurs citoyens.
Pierre Lunel, donc je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire hein, dans le passé.
Je l'ai été.
Vous l'avez été haut fonctionnaire, donc vous êtes un homme de Alors, j'allais dire, à une époque, vous avez été un homme de gestion aussi. Comment expliquez-vous cette pauvreté à Madagascar? Pareil, vous estimez que c'est aussi la corruption?
Oui.
Ou bien c'est une incurie?
Je pense que le malaise africain repose, me semble-t-il, comme le dit le père Pedro, d'abord sur la corruption. Dès l'instant où on fait de l'argent roi son propre argent, et où on pense vraiment à se servir, soit la famille élargie, le clan, enfin je ne sais pas, plutôt que de servir le peuple pour lequel on est élu, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller bien. Et la misère ne peut qu'augmenter. C'est tragique de voir un pays aussi grand que Madagascar, possédant des ressources naturelles, possédant une terre fertile, possédant un élevage, enfin, qu'à tout, eh ben ça va pas. Donc, c'est pas la faute des Malgaches qui vivent là-bas, sur place. Il faut bien que la faute vienne de quelque part. C'est pas la malédiction divine.
Non plus, bien sûr.
C'est la malédiction humaine.
Oui. Alors, précisément, justement, c'est à travers ces portraits que vous dessinez, Pierre Lunel, que l'on se rend compte, effectivement, de tout ce qui est endémique et tout ce qui ne va pas à Madagascar. C'est toujours les mêmes histoires. C'est des enfants qui naissent dans des familles, mais ultra nombreuses, jusqu'à 10 enfants, une démographie donc galopante, immaîtrisable en quelque sorte, quand on est pauvre, bien. C'est le moindre accident qui se passe, un père qui meurt, un accident du travail, le père qui s'en va, l'alcool, bon, l'agriculture qui finalement ne rapporte pas plus beaucoup. Toutes ces raisons-là, on les retrouve dans tous ces parcours de vie, on les retrouve dans les rues de Madagascar, vous les avez retrouvés, père, il y a une trentaine d'années, donc sur une décharge. C'est toujours les mêmes histoires de vie.
Oui, mais au début, quand j'écoutais ce que ces amis, parce que pour moi c'est des amis, me racontaient, je me disais, ah ben ça va être monotone, parce qu'ils me racontent tous les mêmes histoires. Et puis je me suis dit, mais non, c'est au contraire extrêmement instructif. Parce que ça montre qu'il y a quoi ? Il y a une huitaine, une dizaine de causalités majeures qui surviennent au milieu de la pauvreté et qui font des gens qui sont des petits pauvres, des misérables. Alors, il y a en plus l'attrait de la grande ville. Ça, on l'a pas dit, mais cette espèce de magie des lumières de la ville qui attrait vraiment tous ces gens, et la plupart du temps, on sait pas où ils aboutissent. Ils aboutissent à la rue. Et puis, vous l'avez très bien dit, l'alcool, l'abandon familial, le papa qui s'en va parce que soit il en trouve une plus jeune, soit il boit, soit il travaille pas. J'ai été très frappé, moi, à Kamassou, j'ai toujours été très frappé, je le disais à Père Pedro tout le temps, bah, tu n'as que des femmes qui travaillent autour de toi. Alors, il me disait, mais non, il y a quelques hommes. Bon, vous avez vu que dans ce livre, il y a aussi quelques portraits d'hommes. Bon, mais enfin, je dois dire qu'on a eu un peu plus de mal à les trouver que de trouver les femmes agissantes, hein, il y en avait.
Les maîtresses femmes, il y en a, hein, des maîtresses femmes.
Ah, ça, alors. Étienne, la famille à bout de bras.
Pourquoi les hommes sont absents?
Mais parce que la société les privilégie l'homme. Comme,
machiste,
et que l'homme, le garçon, quand il est petit, ne fait pas grand chose, la fille doit toujours travailler, chercher l'eau, laver les linges, aller chercher les bois, il doit tout faire, cuisiner, laver. Et les garçons, tranquillement, il est tranquille, on n'exige pas. Alors, et les femmes extraordinaires, c'est la pierre angulaire de Madagascar et de l'Afrique. Et les hommes, moi, je secoue souvent, je dis, et là où il n'y a pas une dignité égale entre l'homme et la femme, eh bien la pauvreté est là. Si en Europe, vous avez vaincu un peu la pauvreté, extrême pauvreté, c'est parce que l'homme et la femme, c'est son égo.
Il y a une
dignité qui est défendue. Mmh. Et là-bas, c'est pas encore le cas. Alors, il faut lutter encore. Les hommes, j'ai fait un appel aux hommes. Nous sommes des hommes pour être responsables. L'enfant que nous avons mis au monde. Comme des fois, je dis, si j'aurais eu un enfant, c'est mon enfant. Personne d'autre s'occupera de lui que moi. C'est mon enfant, c'est mon devoir de le donner un avenir. je l'ai dit fort pour que se réveillent dans les hommes qui ont des enfants et qui les ont laissés à l'abandon.
La paternité, la notion de paternité.
Et, oui, et là, quand l'État, quand les gens qui dirigent l'État, quand ils ne sont pas trop exemple dans ce qu'ils font, parce qu'il ment, parce qu'il il fait des apparences, parce que il est indifférent, parce qu'il vole, parce qu'il est corrompu, ben il peut pas parler à son peuple.
Il avoir valeur d'exemple, c'est ça.
Il n'y en a pas d'exemple. Et alors les gens, ensuite, ils désespèrent. Et le fait, le désespoir est toujours présent. Et c'est là où nous avons ranimé les femmes qui étaient là, et les hommes sont venus après. Et dit, alors dit, hey, moi aussi je veux travailler, moi aussi je veux créer une famille, moi aussi je veux être responsable. Alors, lutter contre le désespoir qui voit les gens dans la campagne où ils sont seuls, que les nouveaux présidents doivent s'occuper des paysans malgaches qui sont toujours 70%, 75% de la population sont des paysans.
Oui.
Et qu'il faut les aider. Il faut les aider dans tous les domaines. Et le premier village d'Akamassou, c'est dans la campagne. Parce que j'ai dit à mes frères, la ville vous a tué, la ville vous a abîmé, revenons vers la terre. La terre va nous guérir.
Oui, mais la terre ne rapporte plus.
Exactement, mais nous, notre premier village, c'est là-bas.
Oui,
et nous sommes occupés de ce terrain-là. Oui. Et là-bas, ça marche. Alors, il faudra que l'État ait une politique agricole très forte pour aider les paysans.
Une précision, Akamassou, c'est à quelques kilomètres de Tananarive.
À 8 kilomètres.
C'est ça. Il y a un autre village.
D'autres villages qui sont
dans la campagne.
Dans la campagne, à 70 kilomètres, route de Majanga. Nous avons d'autres villages qui sont... qui travaillons à Finarantsu, dans le sud-est, à Murundave, et un peu, on s'est déjà dispersé un peu, parce que partout on nous demande, venez nous aider, mais on n'a pas assez de moyens.
Vous écoutez Religion du Monde, nos invités sont Père Pedro et Pierre Lunel pour le livre La Cité d'Espérance du Père Pedro aux éditions du Rocher. Pierre Lunel, vous vouliez dire quelque chose? Vous vouliez répondre
oui, hein, là-dessus,
Pedro,
oui. Je voudrais dire que là, c'est pas la terre qui rejette les hommes, c'est tout simplement ceux qui sont responsables d'une société qui n'aide pas. Le petit peu qu'il pourrait aider la terre à garder dans le bonheur, l'harmonie et dans une vie décente les hommes qui doivent la cultiver. C'est pas la terre qui rejette les hommes. La terre, au contraire, n'a jamais rejeté les hommes.
Exactement. Et le peuple malagasy est très attaché à sa terre. Ils sont très attachés. Le fait que là-bas, ils disent, c'est les Tanjazana, c'est la terre des ancêtres, on l'aime. Mais cette terre-là, puisque on brûle beaucoup là-bas aussi, hein. La terre, elle n'est pas assez fertile dans des endroits, surtout le plateau, hein. La côte, c'est un peu mieux. Mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route.
Madagascar pourrait
vendre des légumes, des fruits à La Réunion, à l'île Maurice, à Seychelles, aux Comores, partout, même en Afrique. Hein. Et les laitiers, déjà, Madagascar exporte plusieurs milliers de tonnes de laitiers en Europe. C'est une terre bénie, mais que les hommes, les responsables de l'État, n'ont jamais été à la hauteur. Moi, je dis, nous manquons de responsables, de présidents, qui se soient honnêtes, que ce soit patriotes et humanistes.
Père Pedro, vous êtes un expert en développement, d'une certaine façon. Quand on a bâti une petite ville, quand même, de 25 000 habitants...
Je ne suis pas un expert.
Vous êtes devenu un expert en développement.
L'expérience m'a fait apprendre beaucoup de choses.
Qu'est-ce que vous préconisez précisément? Qu'est-ce qui fait que vous, ça a marché?
Parce que les gens comprennent que je les aime d'abord. Que je suis avec eux, que je vis avec eux, que nous sommes au milieu d'eux et que nous ne les avons jamais abandonnés. Vous connaissez un ONG qui a 4 cimetières Eh bien, nous avons 4 cimetières à Kamassou. Moi, j'ai déjà 29 ans, j'ai déjà enseveli seulement à Kamassou plus de 4000 enfants, jeunes, mères de famille, personnes âgées. Eh bien, quand ils ont vu que vous les respectez et que vous les enterrez dans le respect de leurs coutumes, de leurs traditions, ils disent, ben, s'ils nous respectent même mort, c'est parce qu'ils nous aiment, parce que nous sommes importants pour lui. Voilà, et quand nous avons réveillé cette confiance, tout est possible. Eh bien, moi, je viens d'ailleurs, je ne suis pas là, mais je suis un terrien, nous sommes tous des terriens, et nous sommes tous des enfants de Dieu, nous avons un créateur, et les Malgaches connaissent bien un diamant, Zanahar, qui a fait Nanaulilancha Sinitan, qui a fait les pieds et les mains aux hommes, pour qu'ils se donnent la main, pour qu'ils s'approchent, et qui s'entraide. Un diamant, c'est Dieu d'amour qui nous aime à tous et qui nous a tous donné une chance de vivre dignement. Eh bien, voilà ce que je voulais vivre avec ce peuple malagasy qui m'a accueilli un frère et un ami.
Oui, votre énergie, c'est Dieu, c'est la prière quotidienne.
Je crois à la fraternité.
C'est la prière quotidienne.
Je crois au partage. Et qu'est-ce qu'on souffre quand on voit... Il y a 14 000 enfants scolarisés à Kamassou. 14 000 enfants que nous avons arrachés à la rue à une décharge. Qu'aujourd'hui, après 29 ans, nous avons des enfants qui étaient dans la rue ou dans une décharge, qui sont des médecins, des sages-femmes, des comptables, des assistantes sociales. Il y a de tout. Mon énergie, c'est la fraternité. Moi, j'ai compris que l'évangile, pour moi, je suis un croyant, ma famille m'a transmis la foi. Cette foi, pour moi, c'est l'action, c'est aimer quelqu'un, c'est le respecter, c'est l'aider, c'est partager avec eux tout ce que Dieu m'a donné comme richesse. Voilà, et on le met en pratique à Kamassou.
Oui, alors, mais là, je reviens à l'expert que vous êtes. Quelle recette avez-vous appliquée pour que ça marche?
Mais c'est la confiance. C'est avoir fait confiance à eux. Et ensuite, je les ai demandé, pour sortir de la pauvreté, il faut travailler.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait à Kamassou?
Nous vivons, nous construisons notre ville, nous construisons nos routes, nous avons deux grandes carrières où nous avons extrait des milliers, voire des millions de tonnes de granit, de pierres, des moellons, des pavés, des gravions, que nous avons vendu une partie, l'autre partie nous l'avons utilisé pour construire notre propre ville. Le travail, il est partout à Kamassou. Et quand je sors dans la rue...
On n'est pas au chômage à Kamassou.
Ah non, pas de chômage. Là où je mets l'œil, je vois du travail. Et quand je sors dans les villes, dans les villages, partout, j'entends 10, 20 fois par jour, mon père, donne-moi un travail. Jamais me disent, donne-moi de l'argent, donne-moi un travail. Parce qu'ils savent que en travaillant, il aura un petit salaire. Et que les enfants à l'école, les enfants doivent à l'école. 14 000 enfants scolarisés, c'est un défi. Mais quel bonheur de voir ces enfants à l'école. Et quel bonheur qu'ils ont d'apprendre. Et ensuite, il y a à Kamassou un dina. Dina, ça veut dire, c'est une sagesse malagasse que quand on vit ensemble, on doit mettre ensemble des lois communautaires qu'on doit tous respecter et qu'on vote à main levée. Eh bien, nous avons 20 dinas. Et les dinas à Kamassou commencent ne pas voler. Parce que le pauvre a tendance à voler. Il dit, bon, je n'ai rien, je dois voler. Je dis, non, ici maintenant, on travaille, on ne vole plus. Et on ne ment plus. On ne trompe plus à son frère. Et nous vivons une fraternité qui est réelle. Et on respire dans Kamassou cette fraternité. Les gens qui passent, les touristes qui viennent à Kamassou disent, hey, ici on respire la paix. Ici on respire la joie de vivre. Ici, c'est un autre air. En plus, votre village sont propres. Ce sont des touristes
sécurisés
aussi, parce que l'insécurité est devenue très 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 important. L'insécurité là, c'est parce que bon, le mal est partout, la corruption est partout, la misère est partout, et bien les gens, ils ont commencé à voler. Et quand on commence à voler, ben on vole, et ensuite on augmente le mal, engendre le mal. Et c'est pour ça qu'il faut stopper cela, cette corruption et cette insécurité, par les forces de l'ordre, par la police, la gendarmerie, l'armée.
Comment arrivez-vous, Père Pedro, à financer les études de ces jeunes qui sont aujourd'hui médecins, ces femmes infirmières?
Je viens tous les ans, viens en France, en Europe, 3 fois par an. Moi, 3 mois par an, je prends le bâton du pèlerin et je vais témoigner. Et quand les gens savent que ce que vous dites, c'est vrai, et que l'argent qu'ils donnent va réellement aux pauvres, ils veulent aider. Il n'y a aucun, mais vraiment aucun, jamais, je ne suis revenu à Madagascar les mains vides. Et quand j'arrive dans le village d'Akamassou, je dis, je vous amène du travail. C'est les hurrahs, c'est les cris de joie, c'est l'applaudissement. Parce que c'est le travail qui fait la personne. C'est ça qu'ils ont écrit dans un de nos murs. Eux-mêmes, ils ont écrit, c'est le travail qui fait la personne. Ni asa nu maul.
Père Pedro, vous parlez, vous, de la violence conjugale. Elle existe, elle est très forte.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous dites à ces maris
qui tapent? Surtout dans le plateau, à Tana. Parce que ça n'existait pas dans la côte est où j'ai travaillé mes premières 15 années. Là-bas, quand la famille donnait une fille comme épouse à un homme, il dit, écoute, on te donne notre fille toute saine, elle est bien, elle est bonne santé, elle n'a aucun ni bras ni pied cassé. Si tu n'es pas content, tu nous la rends comme on te la donne. Ça veut dire il n'y avait pas. Mais à Tana, ben voilà, c'est la grande conglomération des gens de partout et les belles traditions se sont perdues et la violence s'est installée. Et cette violence existe, et en plus appuyée par l'alcool et la drogue locale qui s'appelle Rungun, qu'il faut arrêter parce qu'elle rend fou les gens. Elle rend fou. Et bon, la bagarre est assurée.
Alors précisément, vous avez un chef de sécurité dont Pierre Lunel a fait le portrait, Ratatra.
Ratatra.
Je prononce mal, c'est...
Oh, non, oui. Ratatra.
Ratatra,
là,
bon.
Oui. Alors, bon, lui, c'est le plus âgé, alors il est sage et il est entouré avec d'autres hommes, d'autres jeunes hommes, et qui est chargé de la sécurité. Alors, ils vont partout, la nuit, le jour, parce qu'il faut veiller à que la drogue ne s'infiltre pas dans nos villages. Et alors, il fait un très très bon travail. Voilà, on doit s'organiser, on sait comment faire, et nous devons protéger notre ville, nous devons protéger nos jeunes, nos enfants, de l'alcool, de la drogue, parce que c'est un danger dont il est difficile de s'en sortir après.
C'est aussi pourquoi vous avez effectivement construit pas mal de terrains de sport.
Bah, bien sûr, et les sports, quand nous avons 14 000 enfants, il faut que les enfants aient d'où se défouler. Et nous sommes fiers d'avoir à Madagascar aujourd'hui, les enfants de moins de 14 ans sont les champions scolaires de Madagascar, les enfants d'Akamassou. Et les filles d'Akamassou, moins de 18 ans, on a fait un championnat, ils sont champions de Madagascar moins de 18 ans.
Pierre Lunel.
Et le père Pedro est l'entraîneur en chef des équipes de sport d'Akamassou.
Les sports font partie de la vie.
Il réussit avec eux quand même, parce que pour se délasser, il a des journées harassantes, parce que j'ai pu en être témoin. Alors il a un grand délassement, vous savez qu'il vient d'Argentine quand même à l'origine. L'Argentine, c'est quand même la patrie
du
ballon rond.
Des meilleurs footballeurs.
Et par conséquent, son grand délassement, c'est de prendre un ballon rond de temps à autre, d'aller sur l'un des stades, de dire à un jeune Malagasy, tu te mets dans les caches et de lui planter un but.
Ah ouais.
Eh bien écoutez, on terminera donc sur cette image footballistique. J'ai aussi envie de terminer notre rencontre, Père Pedro, Pierre Lunel, sur la conclusion de votre livre. Vous dites, voilà, quand je repars, je rejoins mon Occident avec son confort matériel, ses petits, ses gros soucis, ses vaines préoccupations et son désarroi spirituel.
Ben oui, c'est peut-être un peu exagéré parce que j'ai beaucoup d'amis de l'Occident dont je ne...
Qui ne sont pas dans le désarroi.
Oui, qui ne sont pas tellement en désarroi
vous
spirituel.
Vous non plus, vous n'avez pas l'air d'être dans le désarroi d'ailleurs.
Qui se promènent à travers le monde, qui sont en recherche, qui prient beaucoup, qui se battent parce que la prière c'est d'abord un combat, c'est d'abord l'action. Non, je ressens ça parce que je quitte Madagascar et que, comme le disait le père Pedro, moi ça me fait un chaud effroi. Je rentre dans un monde où parfois on oublie qu'il y a malgré tout de plus pauvres que nous, que la terre est faite d'humains. Nous sommes tous pareils et nous avons tous le droit à mener une vie digne. Tous.
Eh bien, ça sera aussi votre message de Noël, hein, quelques jours de Noël, dans cette période de Noël. Donc, je rappelle à nouveau le titre du livre, La Cité d'Espérance du Père Pedro, et c'est publié aux éditions du Rocher. Je vous remercie.
Merci.
Merci.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Olivier Raoul vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.